Maintenant, donc, j'en viens à la présentation de la conférence d'aujourd'hui. Elle va être donnée par Pascal Angèle. Pascal Angèle est né en 1954 à Aix-en-Provence. Il est ancien élève d'école normale supérieure, agrégé de philosophie, docteur d'État. Il fait une carrière d'enseignant de philosophie. Il a commencé à l'université de Grenoble, puis à celle de Caen. Et il est actuellement professeur de philosophie à l'université Paris 4, Sorbonne. Ses spécialités, c'est la philosophie de la logique, du langage, de la connaissance, ainsi que la philosophie de l'esprit et de la psychologie. Vous allez le voir tout de suite avec ses publications que je vous signale. La norme du vrai, un gros livre de philosophie de la logique paru chez Gallimard en 1989. Davidson et la philosophie du langage, paru en 1994. L'introduction à la philosophie de l'esprit, qui est de 1994 aussi. Philosophie et psychologie chez Gallimard en collection Folio Essai, donc collection de poche. La dispute en 1997 aux éditions de Minuit. Et un petit livre, donc ça veut dire peu cher, un peu coûteux, La vérité chez Attier en 1998. Et il va nous parler pendant une cinquantaine de minutes sur la question suivante. Sommes-nous responsables de nos croyances? Ensuite, de quoi il répondra à vos questions. Je vous remercie.
Merci. Je suis très fier de participer à cette entreprise titanesque. Je ne suis pas sûr du tout que l'exposé que je présenterai aujourd'hui appartienne à l'esprit du temps, parce qu'il s'agit plutôt d'un thème que je classerai comme relevant, mettons, de la philosophie des Lumières. J'en dirai un tout petit mot à la fin. Cela dit, c'est vrai qu'en ce qui concerne l'heure, mon sujet est assez approprié, puisque nous sommes un dimanche à 11h et que je vais être amené à parler de devoir de croire, de vertu épistémique, et que ça pourrait ressembler à un prêche, même si, en fait, ma thèse va être qu'il ne s'agit pas d'un sermon dans ce genre de domaine. Le problème dont je voudrais traiter naît à la fois d'une profonde symétrie et d'une profonde dissymétrie entre la notion de croyance et celle d'action. D'un côté, nous sommes tentés de dire que les croyances ont plutôt des causes que des raisons, et de donner notre accord à Wilhelm Busch, le créateur de Max et Moritz, de garnement qui savait ce que c'était que la responsabilité et l'irresponsabilité. Wilhelm Busch disait « Les affaires de croyance sont comme les affaires d'amour, il n'y a pas de raison pour ou contre cela. » Donc il semble que les croyances aient plus besoin d'être expliquées que d'être justifiées, et qu'elles soient en ce sens-là quelque chose de plus subi que d'agi. Croire ne semble pas non plus être susceptible d'être une action. Par exemple, je ne peux pas décider de croire dans la minute qui suit que je suis en ce moment en haut de l'Etna et pas au CNAM. Et est-ce qu'on blâme quelqu'un pour ses croyances, si elles sont vraies? Quel mérite y a-t-il, par exemple, à croire qu'il fait beau quand il fait beau? Si elles sont fausses, quel mal peut-il y avoir à croire qu'il pleut pas quand il pleut? Quel mal y a-t-il même à croire au Père Noël si c'est quelque chose qu'on croit? D'un autre côté, et d'un autre, c'est l'opposition que je veux introduire, il y a aussi des analogies importantes entre les croyances et les actions. Si nous ne blâmons pas un enfant pour croire au Père Noël, nous blâmons les adultes, ou du moins certains adultes, pour avoir de telles croyances. Il y a des choses qu'on aurait dû croire, étant donné les informations dont on dispose ou dont on disposait, parce qu'on avait des bonnes raisons de croire. Il semble donc bien y avoir, comme pour les actions, des obligations et des devoirs proprement cognitifs ou épistémiques. Et les croyances semblent être des états au moins comparables à des actions, comme l'indique notre vocabulaire. Nous parlons de donner son assentiment, de se faire une opinion, d'accepter une proposition, de tenir quelque chose pour acquis. Et tout ça semble indiquer une participation active du sujet à la formation de ses croyances. La question que je voudrais me poser alors est, est-ce que la notion de responsabilité peut s'appliquer aux croyances, compte tenu de ces deux types d'intuitions divergentes qui nous font rapprocher les croyances des actions, ou qui, au contraire, semblent les en éloigner. Peut-on aller jusqu'à parler d'une éthique de la croyance, comme on l'a fait, au même titre que l'on parle d'éthique tout court? Est-ce que le Comité national d'éthique doit se saisir d'affaires épistémiques, d'éthique épistémique ? Alors, il y a de nombreuses manières d'aborder ces questions. Ce sont des questions très traditionnelles de la philosophie, et si je les formule de la manière suivante, vous reconnaîtrez des thèmes classiques. Dans quelle mesure est-ce que l'esprit est actif ou passif ? Quel est le rapport entre l'entendement et la volonté ? Entre la recherche du vrai et la recherche du bien ? Par exemple. Or, pour que la notion de responsabilité puisse s'appliquer à la croyance, il semble que la notion de volonté doive aussi pouvoir être appliquée à cette notion, et que les croyances puissent être, au moins en un sens, considérées comme des types d'actions. C'est essentiellement la question que je vais poser. Et il me semble qu'il n'y a pas, sans doute, de meilleure manière de l'introduire que d'examiner le texte de Pascal que je vous ai recopié, qui se trouve dans l'art de persuader, juste après l'opuscule sur l'esprit géométrique. Personne, dit Pascal, n'ignore qu'il y a deux entrées par où les opinions sont reçues dans l'âme, qui sont ses deux principales puissances, l'entendement et la volonté. La plus naturelle est celle de l'entendement, car on ne devrait jamais consentir qu'aux vérités démontrées. Mais la plus ordinaire, quoique contre la nature, est celle de la volonté, car tout ce qu'il y a d'hommes sont presque toujours emportés à croire non par la preuve, mais par l'agrément. Cette voie est basse, indigne et étrangère. Aussi, tout le monde la désavoue. Chacun fait profession de ne croire et même de n'aimer que ce qu'il sait mériter. Pascal dit ici deux choses, au moins. La première est un constat ou une description. C'est un fait, nous dit-il, que nous pouvons croire par l'intermédiaire de la volonté. Je crois que il y a des exemples très familiers, sans recourir à la littérature. Voici un exemple de la voix basse pascalienne de l'agrément tiré d'une analyse d'un psychologue social sur des manières dont des gens parviennent à se persuader d'un certain nombre de choses. La voix, je l'appelle la voix basse de l'agrément, c'est un texte de un psychologue social qui s'appelle Gilovich, How We Know What Isn't. Une étude sur 1 million d'élèves de terminale de lycée a montré que 70% d'entre eux pensaient être au-dessus de la moyenne quant à leur capacité de direction des hommes, enfin leadership, et que seulement 2% pensaient être au-dessous de la moyenne. En termes d'aptitude à la socialisation, tous les étudiants pensaient qu'ils étaient au-dessous de la moyenne. 60% pensaient qu'ils faisaient partie du groupe des 10% les meilleurs et 25% pensaient qu'ils étaient dans les 1% les meilleurs. Une étude sur les professeurs d'université montra que 94% d'entre eux pensaient être meilleurs dans leur travail que la moyenne de leurs collègues. Voilà ce que j'appelle, avec Pascal, la voix basse de l'agrément. La deuxième chose que dit Pascal est d'ordre normatif, pas simplement constatif. Même si c'est un fait que nous croyons par l'intermédiaire de la volonté, par cette voie basse de l'agrément, ce n'est pas la bonne manière dont il faudrait croire. Il ajoute en fait aussi que tout le monde s'en rend si bien compte qu'il feint de ne croire que pour de bonnes raisons. La question que je veux poser est la suivante. Est-ce qu'on peut réellement croire par l'intermédiaire de la volonté et en quel sens ? Et si oui, en quoi est-ce que cela affecte notre conception de ce que nous devrions croire, c'est-à-dire de nos devoirs épistémiques ? Ici, il faut être prudent, car dans ces débats, il faut distinguer plusieurs sortes de thèses. Et j'en distingue, en fait, on pourrait en distinguer plus, mais pour les besoins de la présente discussion, j'en distinguerai quatre. J'espère que vous arrivez à lire. Je vais distinguer des thèses qui seront descriptives ou constatives ou psychologiques, si vous le voulez, de thèses qui sont normatives. Les unes portent sur la manière dont on croit de facto, les autres portent sur la manière dont on devrait de iure croire. La thèse 1A, je l'appelle C'est une thèse qui dit qu'on peut effectivement parvenir à croire par l'effet de la volonté. La deuxième est opposée et soutient qu'on ne peut pas croire par l'effet de la volonté. Il y a également deux thèses normatives. Nos raisons de croire sont au moins partiellement nos raisons d'agir. Et deuxièmement, 2b, nos raisons de croire ne doivent pas dépendre de nos raisons d'agir, mais uniquement de la force de nos preuves. La première, les thèses petit a, 1a et 2a, à la fois descriptives et normatives, je les appelle des espèces de volontarisme. C'est le terme consacré dans la littérature sur ces sujets. Les thèses 1b et 2b, je les appelle, pour ne pas faire un anglicisme qui utiliserait le mot evidence, qui n'a pas le même sens en français, je vais l'appeler le modèle des raisons concluantes. Ce n'est pas très joli, mais ça dit ce que cela veut dire. Pascal, en fait, défend la thèse, dans le texte que je citais, de l'art de persuader, la thèse 1A. On peut croire par l'effet de la volonté. Mais en même temps, vous avez vu qu'il dit que c'est pas la bonne, que ce n'est pas une façon justifiée, que ce n'est pas la bonne norme de la croyance. Donc il défend aussi la thèse 2B. Nos raisons de croire ne doivent pas dépendre de nos raisons d'agir, mais uniquement de la force de nos preuves. Croire non par la preuve, mais par l'agrément. Mais comme on va le voir tout à l'heure, il y a aussi des passages dans lesquels il semble défendre quelque chose comme la thèse 2A. La thèse que j'entends critiquer, c'est précisément la thèse volontariste, la conjonction de 1A et 2A. Pour que le volontarisme au sens normatif, c'est-à-dire la thèse sur laquelle nos raisons de croire sont au moins partiellement nos raisons d'agir, pour que cette thèse soit vraie, il faut évidemment que nous puissions, psychologiquement parlant, croire par volonté, puisque nos raisons d'agir sont les raisons pour nos actions, il devrait s'en suivre qu'effectivement nous puissions faire les actions. C'est-à-dire que « doit impliquer « peut ». À l'impossible, nul n'est tenu. Donc, il faut qu'il soit possible, pour que la thèse volontariste soit correcte, de croire par l'effet de la volonté. C'est évident que si ce n'est pas possible, on ne peut pas recommander à quelqu'un de faire ce qu'il ne peut pas. Mais pourtant, en fait, comme on va le voir, il n'est pas si facile de bloquer la thèse volontariste en critiquant la thèse descriptive 1A. J'ajoute maintenant quelque chose concernant la définition de la notion de croyance. Vous pouvez vous demander dans quelle mesure on peut discuter de cette question sans entrer précisément dans la définition de ce type d'état psychologique. La littérature est immense à ce sujet, elle est pleine d'un nombre incroyable de confusions. Je ne pense pas que la façon dont je vais discuter de ces thèses doivent dépendre aujourd'hui d'une définition très précise de la notion de croyance. Bien sûr, c'est plus intéressant d'affiner les thèses dont je vais parler aujourd'hui en définissant cette notion, mais je me contenterai de quelque chose de minimal. En particulier, on peut se poser la question de savoir si les états mentaux, si les croyances sont des états mentaux conscients ou pas, associés ou non à des entités linguistiques, dépendants ou non de leurs manifestations publiques, s'il y a des différences entre croire, assentir ou consentir, croire et accepter, croire et faire une hypothèse, etc. Comment est-ce que les croyances acquièrent leur contenu, qui est une question qui concerne, dans une très large mesure, beaucoup de travaux aujourd'hui en philosophie de l'esprit. Toutes ces nuances ont leur importance, mais comme je viens de le dire, je ne vais pas les discuter. Alors la définition minimale que je veux prendre, c'est la suivante. Je veux dire que les croyances sont des attitudes mentales qui sont douées d'un certain contenu. Je ne m'engagerai pas sur la nature de ce contenu et la nature de ce par rapport à quoi elles sont des attitudes. Ce qui me semble être les caractéristiques essentielles, c'est qu'elles visent à être vraies, ou elles visent le vrai. C'est leur cible. Une croyance qui ne viserait pas à être vraie serait d'une certaine façon défaitiste, ou se déferait elle-même. Elles sont au moins susceptibles de se manifester dans le comportement, ce qui signifie qu'elles peuvent être éventuellement des dispositions tacites, pas nécessairement liées à un assentiment explicite de la part du sujet. Mais je pense également qu'il est bizarre de soutenir qu'il pourrait y avoir des croyances qui ne puissent jamais, à aucun moment, au moins potentiellement, se manifester dans un comportement. C'est la concession que je ferai a une certaine forme de thèse qui n'a pas une bonne presse, une certaine forme de behaviorisme minimal ou de dispositionnalisme minimal au sujet des croyances. Cette thèse-là est liée à la caractéristique C. Habituellement, les croyances sont non volontaires. C'est pour ça que la question que je pose, sont-elles volontaires, paraît bizarre. Et dernièrement, elles sont habituellement, ces croyances, justifiables par les données dont on dispose. Autrement dit, ce que j'ai appelé le volontarisme au sens normatif, c'est-à-dire la thèse sur laquelle on pourrait avoir des raisons de croire qui seraient axées sur des raisons d'agir, n'est pas une thèse naturelle. Alors tout d'abord, donnons quelques arguments contre la thèse que j'ai appelée 1A, à savoir le volontarisme descriptif ou le volontarisme psychologique. C'est-à-dire, peut-on, psychologiquement parlant, à titre de fait, croire à volonté ? Précisément, cette thèse vise à critiquer l'idée que les croyances sont habituellement non volontaires. Elle nous dit, cette thèse, que, au moins dans certains cas, les croyances peuvent être directement sous le contrôle de la volonté, et par conséquent, que croire est une forme d'action. Et vous voyez bien évidemment qu'il s'ensuivrait que l'on peut être responsable de ses croyances au même titre que l'on peut être responsable de ses actions, qu'on peut les soumettre à une forme de libre arbitre, tout comme on peut soumettre nos actions à une forme de libre arbitre. Alors il y a des objections évidentes à cette thèse. Tout d'abord, elle contredit l'expérience la plus courante. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas décider de croire n'importe quoi. On ne peut pas décider de croire que je suis en haut de l'Etna plutôt qu'au CNAM. Et je ne peux pas décider de croire comme ça que le Dalai Lama est un dieu vivant. Maintenant, supposons qu'on le puisse et qu'il existe, par exemple, des pilules spéciales qu'il suffit d'avaler pour croire toutes sortes de choses de façon immédiate. Est-ce qu'on aurait affaire pour autant à un contrôle direct par la volonté ? Non, parce que ce serait un contrôle direct d'une certaine action, ingurgiter la pilule, qui aurait comme effet de produire une croyance. Mais la croyance elle-même, qui serait le produit de cette action, resterait elle-même dépendante de raison et viserait la vérité. Donc, ce ne serait pas un contrôle direct de la croyance correspondante au sens où on créerait son contenu. Le fait que je désire croire que le Dalai Lama est un dieu vivant et que j'y parvienne par tel ou tel moyen plus ou moins fiable, pilule ou autre, hypnose, autosuggestion, secte, etc., c'est certainement pour moi, évidemment, une raison pratique de croire que le Dalai Lama est un dieu vivant. Mais ce désir n'est pas une raison au sens ordinaire d'une preuve pour la croyance en question. Et il en est exactement de même avec les cas où on se cause à croire quelque chose par des moyens indirects et non pas directs. C'est certainement possible de faire une action, par exemple préparer un gâteau, par l'intermédiaire d'autres actions, faire la pâte, mélanger les jaunes d'œufs, etc. Mais il est parfaitement possible de se causer, de même, il est parfaitement possible de se causer soi-même par l'effet d'une drogue, de l'hypnose ou quelque autre technique à croire quelque chose. Mais même si l'on y parvient, je viens de le dire, le produit de cette action, la croyance, n'en restera pas moins justiciable de raisons qui sont distinctes de celles qui ont pu motiver l'action. Supposons par exemple qu'on puisse avoir des croyances du type de celles qu'on appelle quelquefois des croyances autoréalisatrices. Je suis intelligent. Je me mets à croire ça, et du fait que ça me donne confiance, ça me rend intelligent. Je suis courageux. Ça me rend courageux. On peut en fait montrer qu'un sujet qui parviendrait à croire quelque chose par l'effet de ce type de croyance, à supposer qu'elle soit possible, il n'y a pas de raison de ne pas penser que dans certains cas elles sont possibles, mais on peut montrer que ce sujet-là serait systématiquement dans une contradiction. Contradiction que je peux représenter de la manière suivante. Supposons que je désire croire, par exemple, que je suis un bon philosophe, croyance que je souhaite souvent acquérir, et que j'y parvienne par un acte volontaire quelconque qui a cette croyance comme effet direct ou même indirect. Par définition, si je désire croire que je suis un bon philosophe, c'est que je ne suis pas un bon philosophe et que j'ai conscience des raisons qui me poussent à croire que je ne suis pas un bon philosophe, parce que je ne peux pas vouloir croire quelque chose que je serais déjà. Pourquoi est-ce que j'irais me fatiguer à chercher à accomplir l'action de croire que je suis un bon philosophe si j'en suis déjà un ? Donc il faut que je croie, d'une façon ou d'une autre, que je n'en suis pas un. Par conséquent, si je parviens volontairement, et que j'y réussis, à croire que je suis un bon philosophe, cette croyance doit coexister en même temps avec ma croyance que je ne suis pas un bon philosophe. Je suis donc dans un état contradictoire qu'on peut figurer ainsi. Si vous représentez ma croyance par P, je suis un bon philosophe ou autre chose, je crois que P parce que je me suis moi-même induit à croire que P, mais je ne crois pas que P, puisque en fait je veux le croire et que je ne peux pas vouloir croire ce qui est déjà le cas. Donc je suis dans une situation qui est paradoxale, pour autant que l'énoncé P, mais je ne crois pas que P, soit paradoxal. Si je dis par exemple « il pleut », mais je ne crois pas qu'il pleut, ou bien si je, dans la rue, je vous indique « le CNAM, c'est la rue d'à côté », mais je ne crois pas que le CNAM soit à la rue d'à côté, vous serez à tout le moins étonné ou trompé. Alors, vous me répondrez sans doute que ce genre de situation irrationnelle est parfaitement monnaie courante. Nous prenons souvent nos désirs pour des réalités, nous nous aveuglons nous-mêmes, par ce que on appelle en anglais la « self-deception », nous nous mentons souvent à nous-mêmes. Tout ce que ces arguments montrent, l'argument de la contradiction que je viens d'indiquer, c'est qu'il y aurait une contradiction entre croire rationnellement et croire volontairement par l'effet d'une action directe ou indirecte de la volonté. Mais évidemment, ces arguments ne montrent pas qu'il ne peut pas y avoir des formations volontaires mais irrationnelles de croyance. Mais alors de deux choses l'une. Ou s'il s'agit de formations irrationnelles de croyantes qui ont, comme dans le cas par exemple où on prend ses désirs pour des réalités, certaines causes psychologiques qui échappent dans une large mesure au sujet. Mais en ce cas, on peut difficilement dire que le sujet est responsable. Ou bien il s'agit de formations de croyances qui sont des actions pour lesquelles le sujet a des raisons pratiques. Mais dans ce cas, ce ne sont plus des croyances qui sont justiciables de raisons théoriques au sens de preuve. Il faudrait pouvoir montrer que non seulement en fait, mais en droit, une raison peut pouvoir dépendre de raisons pratiques seulement et défendre une certaine forme de pragmatisme. Alors c'est précisément pour ça que je me tourne maintenant vers ma deuxième thèse, c'est-à-dire la thèse 2A de tout à l'heure. Nos raisons de croire sont au moins partiellement nos raisons d'agir, nos raisons pratiques, une forme de thèse que l'on peut bien appeler pragmatisme. Je l'appelais aussi également volontarisme normatif. C'est la thèse selon laquelle nos raisons de croire peuvent, et peut-être même doivent, toujours être dominées par nos raisons d'agir, ou que nos raisons pratiques doivent toujours l'emporter sur nos raisons théoriques. Ça suppose qu'on puisse comparer en quelque façon les utilités pratiques de nos croyances avec leurs utilités épistémiques et faire la balance des deux. C'est par exemple, comme vous le savez, la thèse de William James dans un article célèbre, The Will to Believe, la volonté de croire. Contre le savant victorien Clifford, qui soutenait qu'il est toujours moralement mauvais de croire quelque chose sur la base de données insuffisantes. It's wrong always and all the time to believe anything on the basis of insufficient evidence. C'était ça que disait Clifford. Contre ce savant victorien, James soutenait au contraire, ce qui semble être de sens commun, qu'il peut être bon pour des raisons pratiques de croire sur la base de données insuffisantes ou même en l'absence de toute bonne raison empirique. Et l'exemple qu'il donnait était précisément un type de croyance autoréalisatrice, celui d'un alpiniste, ou si vous voulez d'un Indiana Jones, qui se convainc lui-même, en dépit des évidences, qu'il pourra franchir un précipice. Mais un exemple beaucoup plus connu de ce type de situation, c'est l'argument pascalien du pari, que James utilise précisément. Alors ici, je m'excuse à nouveau pour les pascaliens dans la salle qui trouveront que je simplifie à outrance la pensée subtile de cet homme, mais la thèse peut être l'argument du pari peut être représenté de cette manière-là. D'un côté, vous avez certaines sortes d'actes, certaines sortes de décisions que vous pouvez prendre, croire en Dieu, ne pas croire en Dieu. Et vous pouvez avoir certains états de choses, à savoir Dieu est ou Dieu n'est pas, qui correspondent à la réalité qui est indépendante de vos actes. Dans le centre de mon tableau, il y a les résultats de ces actions. Si on croit en Dieu et que Dieu est, c'est bon, vie éternelle. Si on croit en Dieu et que Dieu n'est pas, bon, vie finie, pas terrible. Si on ne croit pas en Dieu et que Dieu est, bon, au moins quelque chose dans le genre vallée de larmes, damnation peut-être. Dieu n'est pas statu quo, ce qui n'est pas plus terrible que la vie finie. Alors c'est un argument qui, évidemment, sur lequel il faudrait ajouter également non seulement les utilités des actes, de croire en l'occurrence, mais aussi les probabilités, à savoir la possibilité que... La thèse de Pascal est que même s'il y a une probabilité infime que Dieu existe et que nous ayons et que Dieu existe, il s'ensuit du fait que la vie éternelle est une infinité de bonheur, qu'elle sera toujours l'action qui maximisera notre espérance mathématique ou notre utilité espérée, comme on dit en théorie de la décision. Autrement dit, l'argument utilise un principe que les théoriciens de la décision appellent un principe de dominance. On choisit l'action qui a la plus grande espérance mathématique, et c'est celle de croire en Dieu. Mais il y a un problème avec cet argument si nous devions le généraliser. L'argument dirait que la valeur pratique d'une croyance doit toujours... Supposons qu'on généralise à partir de cet argument du pari, et on défend la thèse pragmatiste suivante. La valeur pratique d'une croyance l'emporte toujours sur sa valeur épistémique, sur ce qu'elle vaut du point de vue de ses preuves. Alors, à ce moment-là, il faut admettre un principe qui est du type du principe P1, que la valeur pratique de croire que P l'emporte ou est toujours plus grande que la valeur pratique de ne pas croire que P. Mais il vous faut aussi pouvoir établir la valeur pratique de ce même jugement, c'est-à-dire de ce même principe qui est celui du pragmatisme. Il faudrait pouvoir déterminer que la valeur pratique de croire le premier principe P1 est plus grande que la valeur pratique de ne pas le croire, et ainsi vous êtes engagé dans une forme de régression à l'infini. Maintenant, même si vous n'acceptez pas cet argument de la régression à l'infini, parce qu'après tout, toutes les régressions à l'infini ne sont pas vicieuses, il y en a des vertueuses. Même si vous n'acceptez pas cet argument, il ne reste pas moins que s'il n'y a pas de preuves ou très peu de données qui justifient une croyance, il est irrationnel d'avoir cette croyance, aussi désirable et utile soit-elle. Si l'action d'acquérir cette croyance est, supposons-le, très désirable, et donc très rationnelle d'après au moins un critère pratique, la croyance elle-même, qui serait le produit de cette action, n'en serait pas pour autant rationnelle. Autrement dit, elle ne deviendrait pas, par ce miracle, une croyance rationnelle d'un point de vue épistémique. Par conséquent, je me rapprocherai de la thèse de ce que j'ai appelé, la thèse 2B, le modèle des raisons concluantes. La thèse en question semblerait nous dire que seules les preuves et les données dont nous disposons, empiriques ou pas, qui confirment nos croyances, seules ces preuves sont pertinentes pour fixer les croyances rationnelles. La fonction de la croyance est de représenter le monde et par conséquent une raison de croire une chose plutôt qu'une autre doit être une raison de croire que le monde est tel ou tel en fonction des données ou des preuves dont nous disposons. Mais le problème est que je ne peux pas simplement croire en fonction des preuves ou des données dont je dispose, car je n'accorderai ma créance que lorsque j'aurai des données suffisantes pour croire. Mais les données suffisantes dont parlait William Clifford, on doit toujours croire en fonction des données suffisantes. Les données suffisantes elles-mêmes déterminent-elles quand j'ai des données suffisantes ou des preuves ? Non. Autrement dit, à partir de quand est-ce que j'ai des données suffisantes ? À partir de quand est-ce que je dois m'arrêter d'enquêter ? C'est dans une assez large mesure une affaire de, sinon de choix, mais du moins d'évaluation. Certains philosophes comme Descartes réclament de croire seulement que lorsqu'on a une évidence complète, quand on a des idées claires et distinctes. À ce moment-là, vous appliquez votre volonté et il ne faut pas qu'elle dépasse votre entendement, alors qu'elle a une sérieuse tendance à le faire vu qu'elle est infinie. D'autres philosophes, comme Leibniz, demandent aussi qu'on se conforme, en plus, ou peut-être en rivalement, à certaines règles de logique. Ils ne pensent pas que la clarté et la distinction soient suffisantes. D'autres philosophes encore, comme les empiristes, comme Locke par exemple, admettent qu'il suffit que les données rendent hautement probable une croyance. En fait, et quoi qu'en dise Descartes, pour la plupart des croyances empiriques, nous n'avons jamais de données absolument concluantes. Et la question de savoir quand nous avons des données concluantes n'est pas elle-même fixée par les données elles-mêmes, c'est-à-dire par avance. Donc Clifford, quand il dit « It's wrong always and all the time to believe anything on the basis of insufficient evidence », on a toujours tort de croire quelque chose sur la base de données insuffisantes, fait tout simplement une pétition de principe quand il nous recommande de croire d'après nos modèles de raison concluante. Alors, maintenant, une fois que j'ai critiqué les thèses, la thèse selon laquelle on ne peut pas croire par l'effet de la volonté, la thèse selon laquelle nos raisons de croire sont au moins partiellement nos raisons d'agir, que j'ai admis que 1B et j'ai admis que 2B, néanmoins, est-ce que je suis, puisque je viens de dire qu'il ne suffit pas de croire en fonction des données suffisantes parce qu'il faut déterminer encore quand les données sont suffisantes, où est-ce que je vais me situer, comment est-ce que je peux défendre une forme de modèle des raisons concluantes compatible avec cette réflexion. Je suis parvenu à l'idée que ni un contrôle direct ou indirect de la croyance par la volonté, ni un contrôle de nos croyances par des raisons pratiques, motivées, ne peut nous donner une notion cohérente de responsabilité quant à nos croyances. On pourrait donc en conclure qu'on ne peut pas être responsable de nos croyances, non pas parce qu'elles dépendraient de causes qui nous détermineraient à les avoir, parce qu'il n'y aurait que des causes aux croyances, mais parce que les raisons concluantes qui les gouvernent ne peuvent pas être des raisons de type pratique. Ça, c'est, semble-t-il, le point où je suis arrivé. Malheureusement, cette conclusion est trop forte. Elle suppose qu'il n'existe qu'un seul type de responsabilité, celle qui vaut pour le domaine pratique ou la responsabilité des actions. Et cela suppose également que la responsabilité présuppose le contrôle volontaire ou quelque chose de, comme un libre arbitre. C'est une conception qui est en fait celle de Descartes quand il suppose que toutes nos croyances, ou plus exactement dans sa terminologie, nos jugements, puisqu'il oppose en réalité jugement et croyance, mais là moi je ne les oppose pas, cette conception est celle de Descartes qui soutient que toutes nos croyances doivent être sous le contrôle de notre volonté. Nous ne donnons, selon Descartes, notre assentiment volontaire qu'aux croyances que nous présente l'entendement, et nous nous trompons, comme je le disais tout à l'heure, quand la force affirmative de notre volonté dépasse les raisons que nous donne l'entendement. Maintenant, nous pouvons aussi refuser d'assentir à ce qui nous semble évident. Et Descartes va jusqu'à dire, dans une lettre à Mélan, que c'est une sorte d'exercice dans lequel nous éprouvons et nous testons notre propre liberté, un passage dans lequel Descartes est très sartrien. Mais il y a une conception en fait beaucoup moins radicale qui associe la responsabilité non pas au contrôle direct et à une forme de libre arbitre, qui est une conception qu'on trouve par exemple et en particulier chez Locke, qui soutient que le rôle de la volonté, enfin Locke admet parfaitement que la croyance n'est pas affaire de volonté, donc il critique la thèse 1A et il n'est pas d'accord avec une conception de la volonté comme assentiment aux propositions de l'entendement comme celle de Descartes. Locke soutient que le rôle de la volonté se limite au pouvoir de suspendre son jugement quand on pense qu'on ne devrait pas juger, quand on pense qu'on n'a pas de bonnes raisons pour juger. Or, selon une conception de type que j'appellerais ainsi lockéen, on peut avoir un contrôle sur nos croyances par l'intermédiaire de quelque chose comme la réflexion. Autrement dit, quand j'ai la croyance que P, je peux réfléchir aux raisons que j'ai de croire que P. Et normalement, cette réflexion sur ces raisons me donne un motif pour croire que P. Mais je peux aussi suspendre mon jugement. Selon cette thèse, nous ne sommes pas responsables de nos croyances parce qu'elles s'imposent à nous ou elles ne s'imposent pas indépendamment de notre contrôle, mais nous sommes néanmoins responsables de la manière dont nous conformons nos croyances à des normes. De quelle manière est-ce que nous les conformons? Eh bien, nous les conformons précisément des manières dont nous prêtons attention aux données, dont nous les sélectionnons, dont nous les évaluons. Par exemple, dans certaines circonstances, je peux décider, à partir du moment où j'estime avoir les données suffisantes, d'accepter que P, ou de tenir P pour acquis, ou de le prendre comme une hypothèse de travail. Ces activités ne placent pas la croyance sous un contrôle direct, mais sous un contrôle seulement indirect. En fait, la réflexion elle-même sur ce que l'on devrait croire rationnellement n'est pas un motif suffisant de croire. La question qui importe est de savoir quand ces activités de suspension de jugement, d'évaluation des données, d'évaluation de la suffisance des données, quand ces activités peuvent nous donner une autorité sur nos croyances. Mais justement, autorité ne veut pas dire contrôle volontaire. En d'autres termes, et pour me répéter, on peut être responsable de ses croyances sans avoir un contrôle volontaire ou même un contrôle réflexif sur elles. Comment ? Eh bien, ici, il faut se rappeler l'asymétrie profonde entre le désir et la croyance, ou entre les états cognitifs, enfin les états conatifs et les états cognitifs. Quand une personne manque à exercer l'aptitude associée couramment au libre arbitre dans le domaine des actions, elle a le moyen de vérifier immédiatement que c'est le cas, alors que rien dans ce genre ne se produit dans l'échec à manifester l'aptitude liée à la pensée libre. Dans le cas épistémique ou dans celui des croyances, on peut n'avoir aucune expérience consciente d'avoir évalué contre ses bonnes raisons. Tandis que quand on désire contre ses bonnes raisons, on en fait l'expérience. Il me semble que le modèle qu'il faut développer ici n'est pas le modèle kantien de l'obligation, d'obligation épistémique ou de normes épistémiques ou d'un devoir de croire qui aurait par lui-même la force de nous motiver à croire. Bien sûr, c'est vrai que si je réfléchis sur les raisons que je peux avoir de croire, de prime abord, ces raisons devraient pouvoir me motiver. Mais il me semble que nous avons du mal, dans une conception de type kantien, à comprendre comment précisément nous pourrions passer de cette réflexion à une authentique motivation. Le problème est celui plutôt d'être sensible à certaines valeurs épistémiques ou cognitives consistant à développer, selon un modèle de type plutôt aristotélicien que kantien, des vertus épistémiques. Je soutiendrai donc que de même qu'il y a des valeurs morales, il y a des valeurs cognitives, comme la recherche de la vérité, l'imagination, la mémoire, la justesse du jugement. Et il y a des vices épistémiques, comme la crédulité, la bêtise ou le dogmatisme. Je ne peux pas évidemment ici développer tous ces points, mais il y aurait certainement matière à en tirer des remarques intéressantes pour une théorie de la bêtise. Être bête, c'est pas manquer d'intelligence. Ce n'est même pas, comme le soutient Kant, simplement manquer de jugement. Rappelez-vous cette belle phrase. La bêtise est à proprement parler, le manque de jugement est proprement parler ce qu'on appelle la bêtise, et contre ce vice, il n'y a point de remède. Kant est ici plus proche de ce que je veux soutenir. Mais la bêtise, ce serait plutôt non pas le manque de jugement, mais l'insensibilité à des valeurs épistémiques ou à des valeurs cognitives. Et donc, il peut y avoir des gens très intelligents qui sont bêtes en ce sens-là. De la même manière que dans le cas des vertus éthiques, acquérir ces vertus épistémiques consiste à acquérir des dispositions ou acquérir une seconde nature, l'acquisition de vertus épistémiques consiste à cultiver certaines sortes de dispositions. Mais les dispositions en question, comme les dispositions éthiques, ne se font pas sous l'effet d'un contrôle volontaire direct, ni même sous l'effet d'un contrôle indirect. Ça ne veut pas dire évidemment que les vertus épistémiques soient identiques à des vertus éthiques. Elle relève, si vous avez suivi l'argument que j'ai développé contre le pragmatisme, d'un ordre distinct. Autrement dit, la rationalité épistémique et la rationalité pratique sont deux choses distinctes. Mais en même temps, il est faux de dire qu'il n'y aurait aucun rapport entre la vertu épistémique et la vertu éthique. On prête souvent à l'époque des Lumières, et en particulier à Descartes lui-même, la thèse d'avoir dissocié la recherche de la vérité et la responsabilité éthique ou, dans le cas qui m'occupe ici, la responsabilité épistémique. Par exemple, un auteur qui a dit ça, c'est Michel Foucault. Dans un article sur la généalogie de la morale, il dit « Je peux être immoral et connaître la vérité. » Je crois que c'est une idée qui, plus ou moins explicitement, a été rejetée par toutes les cultures antérieures. Avant Descartes, on ne pouvait pas être impur, immoral et connaître avec la vérité. Avec Descartes, l'évidence directe est suffisante. Si ce que j'ai dit est correct, et si je peux placer Descartes et Locke comme des défenseurs d'une certaine forme de responsabilité épistémique, j'ai rejeté celle de Descartes parce qu'elle me paraît trop liée à une forme de volontarisme et de contrôle direct de la volonté, j'ai accepté celle de Locke qui est plus modérée. Ces auteurs sont bien des auteurs qui ont influencé les Lumières, je crois que la thèse de Foucault est manifestement fausse. Autrement dit, je conclurai sur ce point en disant que la bonne maxime, ce n'est pas de blâmer, c'est une maxime que j'emprunte aussi à un auteur des Lumières, Lichtenberg, c'est non pas de blâmer les gens pour leurs croyances, mais pour ce que leurs croyances ont fait d'eux. C'est ainsi que s'exprime Lichtenberg. Autrement dit, quand vous avez une responsabilité épistémique, cette responsabilité est ce que non pas ce qui nécessairement dépend de votre contrôle, mais de ce que vos croyances ont fait de vous. Ce que vos croyances ont fait de vous peut avoir fait de vous quelqu'un de blâmable si vous cultivez le vice épistémique, mais ça peut faire de vous quelqu'un de parfaitement louable. Par conséquent, il me semble qu'une défense d'une théorie de l'éthique de la croyance en ce sens-là, une théorie non pas déontologique ou fondée sur des normes absolues, mais une théorie fondée sur des vertus épistémiques, est celle qui a le plus de chances de rendre compte de l'idée de responsabilité de nos croyances. Alors pour terminer, je voudrais évoquer un problème dont je n'ai pas du tout parlé, qui a trait aux croyances collectives, et revenir à cette déclaration liminaire que j'ai faite. La déclaration liminaire que j'ai faite était que les croyances ont des causes, mais pas de raisons, disait Wilhelm Busch. Si ce que je viens de dire est correct, il est tout aussi faux de dire que nous sommes responsables de nos croyances en raison d'un contrôle volontaire ou en vertu de raisons pratiques de croire que de dire que nous ne sommes pas responsables du tout de nos croyances parce que ce sont des états causaux. Nous ne sommes pas responsables de nos croyances, ok, si l'on veut, on peut le dire comme ça, mais nous sommes responsables des manières dont nous nous conformons aux normes épistémiques pour nos croyances. Et nous ne sommes pleinement responsables que quand nous évaluons nous-mêmes ces normes, autrement dit, quand nous avons la possibilité d'évaluer ces normes elles-mêmes. Mais si ce que j'ai dit est correct aussi, il n'y a pas de normes qui puissent précéder ou qui puissent l'emporter sur ce que j'ai appelé le modèle des raisons concluantes. Autrement dit, les normes de vérité ou de preuve dont se recommandait Pascal, finalement, sont bien celles qui sont essentielles. Alors je dis à l'instant que je n'ai pas parlé, j'ai parlé que des croyances individuelles, justement, je me suis placé dans une perspective qui semble être particulièrement individualiste. Mais ce sont en général les théories des croyances collectives, des mythes, des idéologies, de la transmission des représentations collectives, qui nous incite à une conception causale des croyances. Par exemple, si des croyances sont très diffusées, comme par exemple elles le sont celles qui sont issues des conférences de l'Université de tous les savoirs, alors à ce moment-là, il va y avoir des myriades de représentations et de croyances qui se développent dans tout un ensemble de médias. Alors, il existe aujourd'hui une conception dont on peut considérer qu'elle est presque une sorte de paradigme de conception causale. Une conception qui est due à Richard Dawkins, l'éthologue darwinien, qui a défendu la conception selon laquelle, pas simplement aujourd'hui, mais depuis les débuts de la culture se développe par réplication, par réplication, imitation de représentation. C'est une vieille idée qui remonte également dans la sociologie à Tarde. Et sa thèse, c'est que de la même manière qu'il y a de la réplication des gènes que Dawkins considère comme des gènes égoïstes, c'est-à-dire des gènes qui ne regardent leur intérêt immédiat, de la même manière, il y aurait, selon Dawkins, non pas des gènes dans le domaine de la culture, mais des mèmes avec, comme une sorte de crase, de gènes et de mimétiques imitations. Je vous donne un passage du philosophe Daniel Dennett dans un livre d'introduction au darwinisme, Qui a peur de Darwin, paru aux éditions Jacob cette année, où Dennett expose cette conception selon laquelle il pourrait y avoir des mèmes. Alors je lis son passage. Selon Dawkins, il n'y a aucun lien nécessaire entre le pouvoir réplicatif d'un mème, sa fitness, son adaptabilité, et sa contribution à notre fitness, quelle que soit la norme par laquelle nous en jugeons. C'est une observation inquiétante, mais la situation n'est pas complètement désespérée. Même si certains mèmes nous manipulent, certainement nous obligeant à collaborer à leur réplication, en dépit du fait que nous les jugeons inutiles ou laids ou même dangereux pour notre santé ou notre bien-être, bon nombre de mèmes qui se répliquent ne le font pas seulement avec notre bénédiction, mais parce que nous éprouvons pour eux de l'estime. Il est peu discutable, semble-t-il, que les mèmes qui suivent ont tout bien considéré de notre propre point de vue, pas seulement de leur propre point de vue en tant qu'auto-réplicateurs égoïstes. Des mèmes très généraux tels que la coopération, la musique, l'écriture, les calendriers, l'éducation, la conscience de l'environnement, la réduction des armements, il ajoute même, le mariage de Figaro, Moby Dick, les bouteilles à consigne, les accords Salt. D'autres mèmes sont plus discutables. On voit bien pourquoi ils se propagent et pourquoi tout bien considéré, nous devons les tolérer, en dépit de problèmes qu'ils nous causent. La colorisation des films classiques, la publicité à la télévision, l'idéal de correction politique. D'autres encore sont pernicieux, mais difficiles à éradiquer, l'antisémitisme, les détournements d'avions, les graffitis et les tags, les virus informatiques. Et c'est ici qu'il fait une analyse à propos des raisons ou des normes concernant les croyances. La thèse que Dennett soutient, c'est que notre conception ordinaire de ce que c'est qu'une idée, de ce que c'est qu'une croyance qui se diffuse, c'est une conception normative. Notre conception normale des idées est aussi une conception normative. Elle incarne un canon ou un idéal des idées que nous devrions accepter ou admirer ou approuver. Bref, nous devrions accepter le vrai et le beau. Selon la conception normale, ce sont des quasi-tautologies, des vérités triviales. Les gens croient l'idée X parce qu'ils estiment que X est vrai. Autrement dit, ce domaine de la raison ou de la norme que j'ai logé dans la notion de croyance fait partie de l'aveu même de Dennett de notre notion habituelle d'idée. Mais en même temps, il nous dit, et c'est la fin de son texte, que dans le cas des mèmes, dans le cas de cette reproduction des idées par manière purement simplement mécanique, selon des lois qui devraient être des lois proches de celles de la sélection naturelle pour le domaine culturel, le mème X se répand chez les gens parce qu'il est un bon réplicateur. Autrement dit, les mèmes sont aveugles à ces normes. Alors c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal à défendre une conception mémétique de la diffusion des croyances, parce que cette conception mémétique de la diffusion des croyances, par définition, exclura l'aspect normatif ou l'aspect des raisons concluantes qui appartiennent aux croyances. Et il me semble que ce serait une mauvaise idée si on veut faire de la sociologie ou même de l'épidémiologie des croyances, comme le fait l'anthropologue Dan Sperber, si on ne prend pas compte de cette dimension fondamentale des raisons et de notre reconnaissance des raisons et de l'existence de raisons dans les croyances. Évidemment, c'est tellement évident qu'on n'en parle pas, mais ça fait partie de cette notion même. Donc il me semble qu'une conception strictement causale, même si elle peut être correcte pour la notion de représentation, il est vrai que un certain nombre de représentations se diffusent à la manière des réplicateurs dont parle Dawkins. Mais ça n'est pas nécessairement vrai pour la notion de croyance. Alors, je prends un dernier exemple et je termine. Une sociologie qui serait fondée sur des notions causales peut peut-être nous parler de la diffusion de représentations, mais elle ne nous parle pas, comme je viens de le dire, de la diffusion de croyances. On pourrait faire des remarques identiques sur des notions comme celles de mythe ou d'idéologie. Prenez par exemple ce que dit Marc Bloch dans un livre célèbre, les rois thaumaturges à propos de la croyance au toucher des écrouelles. La croyance populaire au toucher des écrouelles, selon cette histoire et ce livre remarquable, est une croyance qui va varier selon les groupes sociaux et qui ne donne pas lieu au même type d'adhésion selon les périodes. Elle est totalement différente, par exemple, lorsqu'elle est crue par le peuple au XIIIe siècle et lorsqu'elle est ravivée par Charles X sous la Restauration, pour des raisons politiques évidentes. Autrement dit, les modes de validation ou les raisons de croire importent et on ne peut pas faire cette histoire si on ne tient pas compte de cette dimension. Par conséquent, la morale que je tirerai de ces réflexions un petit peu normatives, philosophiques, pour la théorie causale des croyances, c'est que sans doute, cette théorie est en partie vraie, elle correspond en effet à un certain nombre de nos intuitions, mais elle ne pourra certainement pas rendre compte de la complexité de ce phénomène. Je vais m'arrêter là, merci.
Oui, donc ici. Et par-delà le problème de la responsabilité épistémique dont vous parlez, c'est-à-dire de la responsabilité par rapport à nos croyances, qu'en principe, puisque nous croyons, nous assumons, et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité d'un croyant par rapport à la pratique de son système de valeurs. Dans le sens, est-ce que quelqu'un qui considère, par exemple, que Marx est un savoir scientifique est responsable de l'historicité du marxisme?
Je n'ai pas parlé de tout un ensemble de types de croyances, qu'il s'agisse de celles qui peuvent donner lieu, peuvent exister dans le domaine politique. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai fait pratiquement silence intégralement sur les croyances religieuses. Ce que je veux dire, c'est que, tout d'abord, les choses que j'ai dites peuvent s'appliquer en effet au domaine de la croyance religieuse ou d'un certain type de foi, bien que je n'ai pas prononcé ce mot. Il est certain que si la définition que donnent les théologiens habituellement de la foi est souvent une définition de type volontariste. Au Moyen-Âge, c'est souvent le cas. Maintenant, il existe aussi une autre conception, qui est une conception des raisons concluantes de la foi. Alors donc, le débat dont j'ai parlé, en effet, a ses sous-produits dans ce domaine-là. Maintenant, si j'ai bien compris votre question, elle demande si on peut considérer que quelqu'un qui se trouve déjà dans un système de croyance qui véhicule sa propre normativité, si cet individu est responsable. La réponse que je dirais, c'est s'il n'a... Là, je vais être très lockéen, très partisan des Lumières. Je vais dire s'il n'a pas examiné, s'il n'a pas soumis aux raisons concluantes les types de croyances auxquelles il a affaire, cette personne, même s'il est dans un ordre normatif, même s'il n'est pas simplement guidé de façon mécanique ou comme un automate par les types de croyances auxquelles il adhère, cette personne-là est quand même quelqu'un qui n'est pas complètement rationnel.
Monsieur.
Je me demande si la question posée « Sommes-nous responsables de nos croyances ?» n'est pas ambiguë. En un sens, dans le sens suivant, à partir du moment où vous êtes ce que vous êtes, il est évident que vous agissez d'une certaine façon, en tout cas vous essayez d'agir d'une certaine façon, et à ce moment-là, dans ce sens-là, vous êtes responsable. Mais comme vous n'êtes pas la plupart du temps responsable de ce que vous êtes, en ce sens qu'il y a eu les gènes, il y a eu l'éducation, le milieu familial, le milieu culturel, etc., etc., qui vous ont déterminé à être ce que vous êtes, à ce moment-là, on peut répondre par la négative au sujet de la responsabilité. En plus, vous avez fait allusion à Descartes, à Pascal. Or, Pascal avait écrit quelque chose qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Autrement dit, ce qui nous motive, ce qui est la cause de vouloir faire telle ou telle chose est fonction à des raisons rationnelles, on pourrait dire, mais des raisons affectives aussi. Et je crois qu'il faudrait donner un éclairage biologique à ce problème, en ce sens que on voit déjà chez l'animal que les actions sont très fonction des stimulus. Alors évidemment, c'est du behaviorisme, mais n'empêche que lorsque on évolue beaucoup plus en avant dans la phylogénie, jusqu'à l'homme, on peut trouver que finalement, la base de ces croyances est quand même souvent affective. Je prends par exemple un exemple extrêmement simple et je me tirerai. Quand un enfant, on lui fait une piqûre, bon, bah, il sait qu'il a mal, il n'a pas besoin de le démontrer. Et les raisons, enfin, la rationalité a des limites qui me paraissent énormes si on veut répondre à cette question.
Je vous remercie. Je vais répondre assez brièvement. Oui, en effet, la question est ambiguë selon le sens qu'on donne au mot responsabilité. Je n'ai pas voulu rentrer dans la question du libre arbitre. Il y a des gens qui considèrent que la notion de responsabilité ou de libre arbitre est absolument incompatible avec la notion de déterminisme. Ce n'est pas du tout mon cas. Deuxièmement, je n'ai pas voulu nier que les croyances aient des causes. Ça, c'est tout à fait quelque chose que je n'ai pas du tout voulu nier. Le problème, simplement, que même si nous ne sommes pas responsables de nos croyances au sens où un grand nombre d'entre elles ont été causées, y compris d'ailleurs par toutes sortes de moyens, dont quelquefois nous sommes nous-mêmes les agents, en nous manipulant nous-mêmes de façon plus ou moins réussie, indépendamment de ça, il y a quand même bien une dimension normative qui est la dimension primordiale d'évaluation des croyances. Donc, effectivement, nous avons tout un ensemble. Je n'ai absolument pas voulu dire que nous étions des individus hyper rationnels.
Monsieur. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi, vous me croirez ou pas, mais j'ai continué à en prendre plein les dents dans la vie. Vous m'excuserez pour cette présentation faciale. Bon, mais moi je vais peut-être répondre un petit peu à la question de monsieur, à l'affirmation de monsieur. Dans quelle définition minimale de la croyance placez-vous les dictatures religieuses ? Est-ce que c'est une simple pratique volontaire ? Ça peut répondre un petit peu à la question de notre collègue.
Je ne pense pas qu'il y ait de différence très grande. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait de différence très grande. Je vais peut-être choquer en disant ça, entre la croyance religieuse et la croyance dans la pluie et le beau temps. Je pense que les mécanismes globaux sont fondamentalement les mêmes. Par conséquent, je poursuivrai volontiers l'idéal de Hume, qui est celui de rechercher, indépendamment des contenus particuliers des croyances, un ensemble de mécanismes généraux. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, que ma position est une position qu'on peut considérer également, en dépit de tout ce que j'ai dit, comme une position naturaliste.
Monsieur.
Oui, nos arrière-arrière-grands-parents se sont convertis à différentes religions. Ils étaient, en général, ignorants et analphabètes. Au point de vue responsabilité à travers ces générations, comment expliquez-vous cette continuité jusqu'à nous ?
Là, c'est ce que vous me demandez, c'est de donner... Si je suivais les suggestions, je vais vous donner juste une indication. Je ne suis pas opposé à l'idée d'une histoire de la culture, et donc y compris une histoire des croyances religieuses, de type évolutionniste. La critique que j'ai faite à ce genre de conception, c'est qu'elles ne doivent pas utiliser des modèles strictement causaux et hyper simplistes comme ceux de l'épidémiologie des représentations qui est adoptée par certains évolutionnistes d'aujourd'hui, mais elles doivent rendre compte aussi de la manière dont dans la culture se forment des normes, c'est-à-dire des normes de coopération. Voilà, en gros, l'histoire, il y a eu des normes épistémiques qui se sont faites. Cela dit, quant au jugement selon lequel nos arrières-arrières étaient ignorants, ils étaient ignorants, mais enfin, ça les empêchait pas d'être parfaitement rationnels, d'être parfaitement capables de comprendre que les normes habituelles de rationalité d'une croyance, c'est de pouvoir correspondre à des preuves concluantes. Je veux dire que ça... Durkheim, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, ne dit pas autre chose.
Monsieur.
Oui, au début, vous avez donner deux raisons possibles de croire quelque chose. C'est-à-dire à partir, premièrement, de la volonté. La volonté qui nous donnerait les fins d'une action. Et deuxièmement, par des preuves, c'est-à-dire qu'on peut démontrer quelque chose. Est-ce que ce sont seulement ces deux raisons qui sont possibles de croire quelque chose? Je pense que peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été dit là.
Il faut. J'ai pas dit qu'il y a deux raisons au sens. Peut-être que c'est. Attends. Pardon.
Vous avez une idée de ce troisième tiers, de ce troisième tiers?
Bah, il me semble que c'est quelque chose qui est difficile à définir, mais on peut croire quelque chose aussi par l'effet interne qu'il a sur nous-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à Nietzsche quand il a dit que ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. Et quand il a dit ça, il n'était pas dans l'optique pragmatiste. Et il n'était pas non plus dans l'optique de... Évidemment, comme il dit, il pense que la démonstration, dans certains cas, ça ne vaut pas grand-chose. Mais il y a peut-être des vérités, par exemple, des vérités qui sont véhiculées par l'art, par la parole poétique, qui sont d'autres vérités. Je sais qu'il n'entre pas très facilement dans les grilles de la philosophie analytique, dont vous êtes spécialiste, mais est-ce qu'il faut pour autant ne pas les prendre au sérieux?
J'admets, malgré les engagements que vous me prêtez, tout à fait qu'il y a des vérités esthétiques, peut-être pas des vérités au sens scientifique. Bon. D'autre part, vous avez dit qu'il y a deux sortes de raisons. Il y a une ambiguïté, si vous voulez. Il y a évidemment un sens du mot raison qui est quelquefois équivalent à celui de cause. Peut-être que c'est ce que vous voulez dire. Quand Pascal parle des deux voies par lesquelles rentrent nos opinions dans notre esprit, l'entendement, la volonté, il parle des causes, là. Les raisons, c'est autre chose. Les raisons, c'est les bonnes raisons ou les évaluations. Alors, maintenant, si vous voulez dire qu'il y a un grand nombre de croyances que nous avons sans les évaluer, ça, tout le monde est d'accord, au sens où elles sont causées de toutes sortes de manières. La question que le point que j'ai voulu avancer, c'est que, quelles que soient les manières dont elles sont causées, l'autre dimension... celle des raisons compte, et il me semble que quelqu'un comme Nietzsche peut parfaitement l'admettre.
Je voudrais seulement parler du verbe croire du point de vue grammatical. Bon, s'il y a une logique de la croyance, je pense que la langue française s'en sort bien. Lorsque vous dites « je veux croire qu'il pleut », « je ne crois pas qu'il pleut », c'est « je ne crois pas qu'il pleuve ». On retourne au subjonctif. Et lorsque nous avons croire à la forme négative, nous avons le subjonctif. Lorsque nous avons croire à la forme interrogative, nous avons les trois modes, ce qui nous laisse un grand choix. Et si nous avons le verbe croire à la forme affirmative, nous arrivons dans la réalité. Et là, nous avons une déduction. Et ma question, au lieu de dire comme Descartes, je pense donc je suis, est-ce qu'on peut dire je crois donc je suis?
Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'un certain nombre de ces faits grammaticaux sont intéressants. Je ne les ai pas évoqués. Bon, ils ne sont peut-être pas exactement ceux que vous donnez, mais il y en a un qu'à un moment néanmoins j'ai évoqué, c'est la bizarrerie d'un énoncé comme « il pleut, mais je ne crois pas qu'il pleut », ou qui n'est pas exactement équivalent d'ailleurs non plus à « il pleut, mais je crois qu'il ne pleut pas ». Il y a moyen de s'interroger sur ces faits-là, ils indiquent un certain nombre de choses, mais il ne faut pas leur faire dire trop de choses non plus.
Alors madame, ici, on va prendre encore deux questions, madame et madame.
Votre propos un peu dichotomique entre raison et volonté me gêne un petit peu, et c'est vrai que certains cherchent apparemment une troisième voie. Est-ce que vous pensez qu'on peut, par exemple, croire en l'homme?
Je ne me suis pas interrogé sur les objets. Là, c'est pareil pour la question pour Dieu. Je me suis interrogé sur l'attitude du croire. Et c'est une chose qu'on a beaucoup de mal à faire quand on aborde ces questions-là. Je vous ai dit justement que mon idéal, qui était, je crois, celui d'un philosophe comme Hume, c'était d'essayer de caractériser en général cette attitude. Alors c'est peut-être un idéal qui est totalement hors de propos, parce que on serait peut-être prêt à dire que croire quand le complément d'objet est que Dieu existe, ou que le complément d'objet est qu'il pleut, ou que le complément d'objet est que deux et deux font quatre, ont affaire à des choses complètement différentes. Je suis très sensible à cet argument. Mais néanmoins, il me semble que les remarques que j'ai faites sur l'attitude en général de croire, si vous voulez, dans croire que paix, je ne me suis pas intéressé à paix. Je me suis intéressé à l'attitude elle-même. Et je pense qu'il est possible de faire une analyse.
Alors, on prend une dernière question, madame.
Justement, est-ce qu'on ne peut jamais séparer les croyances des finalités que nous posons ?
C'est assez difficile, effectivement, mais c'est l'objet, justement, d'une théorie quelconque de ce phénomène, que d'essayer de pouvoir faire abstraction des contenus et des réalités sur lesquelles il y a des croyances. Donc, essayer de trouver quelque chose comme un mécanisme général et ses règles.
Alors, j'avais dit dernière question, mais il y en a encore une, puisque c'était quelqu'un qui était à côté. Hein. Merci.
Voilà. Oui, vous avez peu parlé du désir et de la manière dont il pouvait submerger nos croyances. Donc je voulais savoir si on a tous, c'est une métaphore bien sûr, mais on a tous parfois envie de croire au Père Noël par exemple. C'est une métaphore, mais pour dire que fait-on dans ce cas-là du jugement, du libre arbitre ou de quoi que ce soit d'autre ? Et sommes-nous vraiment responsables dans ce cas de cette croyance envers simplement le désir de vivre ?
J'ai répondu que non. J'ai répondu que non, je nie absolument pas qu'il y ait des cas dans lesquels nous prenons nos désirs pour des réalités. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a pas de difficulté à observer ce fait. Le seul problème, c'est que, effectivement, ce sera un type de formation de croyance qui sera irrationnelle. Je ne le condamne pas pour autant. Je dis que c'est un fait, et que c'est un fait dont on ne peut pas ne pas tenir compte, y compris celui qui désire ou qui prend ses désirs pour des réalités, qui par exemple croit que en apprenant par cœur tel ouvrage comme la Bible, il va pouvoir passer les examens de mathématiques.
On va s'en tenir là. Merci.